Mesdames, Messieurs, je vous souhaite, au nom des professeurs du Collège de France, la bienvenue dans cette maison. Madame Gunnel-Eckroth n'est pas une inconnue à Paris, où elle a passé un certain nombre d'années et a fréquenté les séminaires, les centres, les bibliothèques et a côtoyé, j'en suis sûr, un certain nombre d'entre vous que je vois dans la salle. Je suis donc heureux de l'accueillir à nouveau aujourd'hui à Paris, dans un cadre peut-être un peu plus formel. Madame Eckroth est professeure, encore que le dernier temps de son séjour à Paris était très formel, si j'ose dire, à l'ambassade de Suède. Madame Eckroth est professeure au département d'archéologie en histoire ancienne et d'histoire ancienne à l'université d'Uppsala. Ses conférences s'inscrivent donc dans le programme d'échange que le Collège de France entretient avec cette université. Vous vous rappelez peut-être que vous avez vu passer ici divers collègues de Uppsala. Gunnel-Eckroth a fait ses études à l'université de Stockholm, où elle a soutenu il y a plus d'une décennie déjà, je crois, une thèse sur les rites sacrificiels dans les cultes héroïques grecs, qui a eu bien sûr tous les honneurs et notamment une distinction de l'Académie royale de Suède. Après ses études, Madame Eckroth a été pendant quelques années chercheur à Stockholm, mais aussi professeur invité pour ce qui nous intéresse à l'Université de Paris 1. En 2011, elle a été élue professeur d'archéologie classique et d'histoire ancienne, comme je disais, à l'Université d'Uppsala. Je ne vous rappellerai pas les nombreuses conférences qu'elle a faites, les volumes, les nombreux articles, etc., qu'elle a publiés. Elle a par ailleurs aussi fouillé à plusieurs reprises en pays grec, où elle a été notamment responsable de la publication des phases de l'époque archaïque et géométrique et archaïque, je crois, sur quelques fouilles. Je ne mentionnerai dans toute cette production qu'un colloque qu'elle a organisé, je l'ai même apporté, qu'elle a organisé en 2009 et qui a donné un livre qu'elle a copublié en 2013, Bones, Behavior and Beliefs, qui caractérise ses recherches au cours de ces dernières années, dérivant d'ailleurs directement de ses travaux sur le sacrifice et, j'en suis sûr, aussi des rencontres d'archéozoologie et d'archéozoologues faites en France, où cette discipline s'est beaucoup développée pendant l'époque de son séjour parmi nous. Cette discipline a continué à se développer depuis et doit notamment à Gunnel-Eckroth des progrès qui en font aujourd'hui un outil indispensable des recherches sur les rites. De nombreux articles de Madame Eckroth se situent dans cette perspective et la première conférence qu'elle fera parmi nous se situe aujourd'hui dans ce même thème en prolongeant en quelque sorte ses réflexions sur les traces matérielles des pratiques sacrificielles qui sont pour tous ceux qui s'occupent de rites et de religions antiques, l'un des éléments des événements les plus prometteurs des dernières années, puisque ce sont des données qu'on n'a jamais regardées, alors que les inscriptions, les temples, les textes, eh bien, on les étudie depuis un certain temps. Et la conférence d'aujourd'hui s'inscrit donc dans cette perspective, alors que la semaine prochaine, à la même heure, Madame Eckroth traitera une question, encore une fois, qui porte encore une fois sur les espaces rituels, mais qui est plus générale, puisqu'elle parlera du téménos et de la limite entre sacré et profane. Aujourd'hui, donc, nous entendons parler de « ne jetez pas les eaux dans le sanctuaire », c'est-à-dire, cette fois-ci, on passe à la phase suivante où on se débarrasse d'une manière rituelle de tout ce qu'on a utilisé. Je me réjouis d'avance de vous écouter, chère Gunnel.
Merci beaucoup. Ça, c'est mieux avec ça. D'accord. Merci. Merci, tout le monde. Ça va comme ça? D'accord. Et merci beaucoup. Et je voudrais commencer par remercier le Collège de France et surtout M. Jan Scheid pour m'avoir invité ici. Et je vais parler en français aujourd'hui. Ce n'est pas une langue dont je me comporte très bien. C'est quelqu'un m'a aidé de traduire mon texte. Et s'il y a des problèmes, c'est à cause de ça.
Qu'est-ce qu'est-ce qui est des déchets ou ordures et comment est-ce que nous distinguons ces catégories des autres objets? Quelle est la façon dont nous définissons ces concepts? Cela peut sembler simple dans notre propre société, qui est vieux, démodé, endommagé, sale, inutilisable ou provoque des problèmes parce que c'est encombrant ou a une forte odeur. C'est des ordures. Mais tout n'est pas aussi simple que cela puisse paraître à première vue. Une robe des années 1970 est obsolète, mais peut être aussi très recherchée pour quelqu'un qui s'intéresse aux vêtements et qui fait les magasins de seconde main. Une chaise du XVIIIe siècle est certainement attrayante, même si elle est ancienne, ou tout simplement parce qu'elle est vieille. Ces meubles peuvent être recouverts d'une couche de surface, une patine, produite lorsqu'il était utilisé, qui n'est en fait que des couches de salissure superposées provenant des générations d'utilisateurs. Pourtant, cela ne porte pas atteinte à la valeur de la chaise. Une tomate pourrie est plus facile à classer. Elle n'a plus aucune valeur. Ces quelques exemples montrent clairement que le déchet et les ordures ne sont pas des catégories évidentes, mais sont liées à leur contexte où ces articles ont été produits et utilisés. Ainsi, c'est nous qui décidons ce qui est quoi, et mon ordure à moi pourrait ne pas être vue comme ordure par vous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les déchets et les ordures? Puisque nous ne considérons plus qu'elles soient utiles, nous les jetons, nous les déversons dans la décharge publique, ou au mieux, nous recyclons. La catégorie de recyclage, nous pouvons placer à la fois, dans la catégorie de recyclage, on peut placer à la fois la robe des années 1970 et la chaise du XVIIIe siècle, mais pas la tomate, si elle ne termine pas dans le compostage. Le recyclage peut sembler un concept entièrement nouveau, soulevé par la conscience environnementale d'aujourd'hui, couplé avec la réalisation que nos ressources ne sont pas infinies. Mais la reprise et le recyclage datent de toujours. Ici, nous reculons seulement quelques générations, nous nous retrouvons dans une société qui recyclait presque tout. Si on place les objets dans un contexte plus large, chronologiquement, nos concepts changent. Les très vieilles ordures et déchets ont depuis longtemps laissé ce stage particulier de détruire derrière eux et sont devenus quelque chose d'autre. Ils peuvent être soit des antiquités cherchées comme des pièces de collection, même si elles sont brisées ou endommagées, ou bien ils sont des découvertes archéologiques qui jouent un rôle crucial dans notre interprétation du passé. La poussière d'aujourd'hui et l'or de demain est une expression connue qui met en évidence le fait que ce que nous considérons aujourd'hui comme indésirable peut effectivement avoir une très grande valeur dans l'avenir. Pensez aux antiquités, mais aussi aux simples objets du quotidien qui, par exemple, peuvent nous donner énormément d'informations. Si nous passons à l'archéologie, nous nous rendons rapidement compte du potentiel de ce que la poubelle peut offrir en termes d'informations. Une grande partie de ce que nous, archéologues, étudions comme matériaux de base est en fait de déchets. Et là, suivant le point de croisement intéressant de ce que nous, en tant que scientifiques modernes, classons comme ayant été ordures ou indésirables dans le passé. En fait, toutes les choses que nous trouvons ont la valeur pour nous, même si elles ont été une fois jetées. C'est juste une question de contexte en termes de façon dont nous comprenons et classons ce que nous trouvons. Prenons un exemple concret. Lors de fouilles de Keramikos à Athènes en 2002, une découverte sensationnelle a été faite à côté de la porte sacrée. Ici, dans le sol marécageux, le long de la rivière Eridanos, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, on a déposé 4 monuments archaïques, un kouros, un sphinx et 2 lions. Ces objets sont tous de la plus haute qualité artistique et ce sont des articles prestigieux quand ils étaient dans l'utilisation, devaient avoir été placés dans un sanctuaire ou dans un tombeau monumental. Les 4 sculptures devaient avoir été endommagées pendant les guerres médiques et ainsi elles sont changées. et aussi bien dans leur apparence esthétique, mais aussi symboliquement. Ayant été des objets de prestige importants avec des connotations religieuses, ils deviennent des déchets. Sans égard à leur ancienne fonction et l'importance, ils ont acquis une nouvelle fonction pour faciliter la construction d'une route. Elle présente même des marques de roues de char sur la surface, un signe clair de la transformation que les sculptures ont subie. Un autre exemple qui incite à se demander si les anciens n'étaient pas conscients de cette transformation se trouve dans la petite île de Despotiko, dans la mer Égée, à côté du sanctuaire d'Apollon. Ici, on a utilisé ou recyclé la partie centrale d'un kouros de la taille au genou dans un mur plus tard. Ce voyage d'un objet avec une fonction particulière à des ordures ou des déchets et finalement à quelque chose qui fournit des informations précieuses sur le passé pour nous, les chercheurs, est le thème central de ma conférence aujourd'hui. Plus précisément, je vais me concentrer sur le sanctuaire de la Grèce antique et leur relation à des déchets, à la fois dans le cadre ancien et le moderne. Je suis intéressée par une certaine catégorie de matériaux, des os d'animaux et la façon de comprendre celle-ci en termes d'ordures ou non. Notre perception, ce qui constitue des ordures dans le sanctuaire antique, a changé assez radicalement au cours des 100 dernières années. Il y a eu un changement dans ce que les archéologues considèrent important et qui vaut donc la peine à garder et étudier. Ceci est un matériau que nous, les gens modernes, spontanément classons comme indésirable, est en fait en partie aussi pour les anciens visiteurs du sanctuaire, mais pas pour tous, mais pas nécessairement pour tout le monde. Nous rencontrons des os d'animaux dans nombreuses formes, à la fois en termes de comment ils sont conservés et l'importance et le statut qu'ils ont, comme preuve de la communication avec les dieux, comme de restes repas communs, mais aussi comme des offrandes votives. Comme toutes les catégories de matériaux, le sens des os d'animaux varie également. Commençons par quelques mots sur l'histoire de la recherche. Les sanctuaires grecs ont toujours eu un statut élevé pour le chercheur. La plupart des fouilles des plus anciens et les plus grands ont été concentrées sur les lieux de culte, par exemple Delphes, Télos, Olympie et l'Acropole d'Athènes. À bien des égards, ces projets visent à nettoyer ce site de ce qui était jugé ni pas avoir sa place. Enlever le débris, tout simplement. Il s'agissait d'enlever la terre qui était accumulée sur le site depuis l'Antiquité. À Olympie, c'était une couche de sédiments fluviaux de plusieurs mètres d'épaisseur, et à Delphes, l'encombrement de tremblements de terre, au sommet desquels le village moderne avait été érigé. Dans ce processus de nettoyage, on a élevé aussi tout ce qui ne correspondait pas à l'image de la façon dont cet endroit ressemblant réellement, ou tout ce qui n'était pas d'intérêt en termes de recherche, par exemple les vestiges des périodes modernes et médiévales, mais aussi byzantines et même romaines. On décidait un endroit propre, exempt de débris. L'exemple le plus clair est l'Acropole d'Athènes, qui était complètement vidée et mise à nu après la Grèce était libérée des Turcs. Sur cette surface propre, on pouvait alors reconstruire ou même de recréer l'acropole telle que l'on considérait qu'il devait être. Ces opérations de nettoyage ont été effectuées rapidement et efficacement. Ceci est en partie une conséquence du fait que l'archéologie à l'époque n'avait pas encore développé les méthodes que nous utilisons aujourd'hui, mais avait une orientation claire vers l'architecture et la sculpture. Le résultat était que les objets de petite taille n'en étaient pas gardés. De ce fait, il ne reste presque rien de tout de la céramique de l'épaisse couche noire, Schwarze Schicht, fouillée à Olympie entre 1875 à 1881, avec l'aide d'une armada de travailleurs et un chemin de fer spécialement construit pour que la terre puisse être évacuée dans le fleuve Alphée. Cela a conduit les chercheurs à croire que la céramique n'était pas utilisée au cours de la première phase du sanctuaire, environ entre 1050 à 600 avant Jésus-Christ. On a plutôt pensé que les visiteurs préféraient des objets métalliques parce que ceux-ci ont été effectivement trouvés dans les fouilles initiales. Pendant les fouilles 100 ans plus tard, dans les années 1990, on a trouvé seulement des restes minimaux de la couche noire, qui n'avaient pas fouillé avant. Mais cette terre était pleine de fragments de poterie. Cela montre que c'est les préférences des chercheurs et pas la situation ancienne qui a créé la manque précédemment supposée de céramique à l'Olympi. Mais le nettoyage de sanctuaire a également de correspondance ancienne. À Olympie, on utilisait les puits qui datent de l'époque archaïque et classique comme des poubelles une fois qu'ils étaient secs. Ici, on a jeté des céramiques utilisées pour cuisiner et manger, des os d'animaux, c'est-à-dire le reste du repas, mais aussi des ex-voto. Dans de nombreux sanctuaires, on a trouvé des dépôts votifs délibérément déposés là pour des raisons diverses. Parfois, il semble que c'est des purges ou des nettoyages pour faire place à de nouveaux dons. Les centaines de miniatures de l'époque archaïque trouvées à la rayon d'Argos en 1949 avaient été enterrées dans ce qui semble être la périphérie du sanctuaire, et il semble qu'ils auraient pu être mis dans des paniers qui ont ensuite été déversés ou enterrés. La plupart des vases sont complets, et peut-être pendant la période classique, on a considéré ces miniatures comme démodées ou superflues. Pour conséquence, il convenait de les supprimer, ou en tout cas, on n'avait aucun intérêt de les conserver. Un problème est quand le rayon a été fouillé, il y a plus de 100 ans, on n'a gardé pratiquement aucune céramique. Donc, il est difficile pour nous d'évaluer si les dépôts qu'on a trouvés en 1949 peuvent constituer une grande purge de ces matières ou tout simplement un nettoyage partiel. Un autre exemple est ce qu'on appelle Perchechoute à l'Acropole d'Athènes. Ces statues, principalement des corails, ont été retrouvées abandonnées dans la cavité de l'Acropole pendant l'épuration de l'Acropole que l'Acropole a subie à la fin des années 1800. La méthode de fouille laisse beaucoup à désirer, et donc la chronologie du dépôt a fait objet d'une longue discussion entre les chercheurs. De toute évidence, ce sont des monuments qui étaient endommagés par les Perses et qui ont saccagé, et on se dit, Athènes en 480. Les statues auraient pu rituellement enterrer, mais on peut aussi imaginer que cela est lié à l'idée que le sanctuaire de la déesse doit être propre et soigné. Dans ce, une série de monuments qui sont en partie endommagés par le feu et manquent de partie ne seraient pas à leur place. Cependant, il a été démontré que le dépôt contient a fait également du matériel qui doit dater après 480. Ainsi, il semble qu'en effet, on a saisi l'occasion pour éliminer des monuments existants construits après la guerre médique, peut-être parce qu'ils étaient perçus comme démodés. Ces matériaux archéologiques soulèvent plusieurs questions. Que peut-on élever d'un sanctuaire et comment? Pourquoi le fait-on? Le point de départ est que tout dans un sanctuaire appartient aux dieux, mais apparemment, cela signifie que les gens ont des possibilités de gérer ces matériels de différentes façons. Les objets fabriqués par l'homme, tels que l'architecture, la sculpture, les figurines et la céramique, est une chose. Mais qu'en est-il des restes animaux sacrificiels? Ces objets qui fait se trouvent en centre de la communication entre homme et Dieu. Le reste de ma conférence porterait sur la matière sous-archéologique. Les os d'animaux dans le sanctuaire grec sont presque toujours liés à des sacrifices d'animaux d'une façon ou d'une autre, même si tous les os dans un lieu de culte ne proviennent pas nécessairement d'animaux sacrificiels. Les sacrifices grecs avaient différents aspects ou éléments, d'une partie abstraite et éphémère et de l'autre physique et tangible. On peut compter les prières, souhaits et remerciements que les orateurs ont adressés aux dieux dans la première catégorie. C'était les paroles exprimées, le but du rituel et le destinateur. De la même la fumée, knissée, qui montait de l'autel à partir de l'os dans le feu, peut être considérée comme faisait partie du côté immatériel du sacrifice. Le côté matériel et physique d'un sacrifice grec est plus facile à cerner. Un résultat tangible de ce rituel est le corps de l'animal sacrificiel, son sang, les entrailles, le chair et les os. Un peu de sang était répandu sur le côté de l'autel, le reste gardé, cuit et mangé. La viande pouvait être allouée au dieu comme un don sacrificiel, soit présentée dans un état cru ou cuit, sur une table, et finalement mangée par ceux qui ont pris part dans le sacrifice. D'intérêt particulier, cependant, sont les ossements. Les ossements, surtout les fémurs, la cuisse, c'est-à-dire le sacrum, et c'est la partie derrière du bassin, et les vertèbres de la queue étaient brûlés sur l'autel et formaient la partie du dieu du Tusia, la forme la plus commune du sacrifice grec. Brûler les os, partiellement enveloppés de graisse, quelque chose de très concret, a créé le feu, une fumée adorante de graisse qui chatouillait le nez des dieux, un résultat incorporel du sacrifice. Le résultat tangible de cette action était des os fortement brûlés et calcinés, brisés en petits fragments par la température élevée. Mais la viande et la moelle que les adorateurs mangeaient ont finalement aussi produit des os. Les restes de repas de sacrifice sont presque entièrement composés d'os non brûlés, mais brisés en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Mais ce sont aussi des portions appropriées à servir et il est plus facile d'en tirer la moelle. Souvent, ils portent des traces de coups de couteau. La viande consommée dans le sanctuaire grec était généralement bouillie. Un coup d'œil sur les deux types d'os, ceux qui étaient brûlés sur l'autel et ceux qui restent après un repas, nous conduirait facilement à les considérer comme des ordures ou des déchets. Ce qui reste lorsque l'objectif principal rituel a été atteint. Les dieux immortels ont été honorés et leurs nez ont été servis de fumée parfumée, tandis que les humains ont rempli leur estomac de viande cuite. Ce qui reste, les os, n'a aucune fonction réelle et devient un problème à résoudre. Mais la question est de savoir si cela est la bonne façon d'aborder la situation. Les os d'animaux sont après tout le résultat définitif du rituel sacrificiel, à la fois divin et humain. Est-ce que ces os brûlés ou non brûlés sont des déchets à jeter? Les os étaient un phénomène auquel l'homme dans le sanctuaire antique devait relater. Ça s'est mis en évidence dans une inscription hellénistique d'un sanctuaire d'Artémis en Étolie. Elle proclame « Ne jetez pas les os dans le sanctuaire ». Mais Epovstevein en to hiero. De quels os agit-il ici? Tout ou juste certaines catégories? Est-ce qu'il agit d'où il était permis de le déposer ou non? Si les os d'animaux sont considérés comme des ordures, pourquoi trouvons-nous si souvent des ossements dans les sanctuaires? C'est une question qui n'a pas eu de réponse facile. Le problème fondamental concerne la méthodologie. Comment définissons-nous le déchet dans un sanctuaire grec? Dépend-il de la matière elle-même, le processus qu'il a subi ou bien le lieu où il a été trouvé? Est-ce que les ossements étaient des déchets que l'on pouvait jeter ou est-ce que l'on les considérait comme des manifestations de la communication avec les dieux et de ce fait, est-ce qu'ils devaient être gardés et même montrés? Y avait-il des différences entre les os de la partie divine et la partie humaine du rituel? En bref, qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce qu'on a jeté, quand, où et pourquoi? Jusqu'à récemment, les os d'animaux trouvés dans le sanctuaire grec étaient certainement considérés comme des ordures qui n'avaient pas ou peu de valeur pour les chercheurs et qui n'étaient pas donc préservés. Parfois, on a noté des trouvailles des os d'animaux mais ceux-ci n'ont pas été étudiés correctement, ou le cas où un examen plus superficiel a été fait, toutes les espèces représentées n'étaient pas examinées parce que certaines n'étaient pas considérées comme pertinentes. Les os brûlés n'étaient pas examinés du tout parce qu'ils manquaient complètement d'importance. Heureusement, cette situation a changé. Et au cours des dernières décennies, il y a eu une énorme augmentation d'intérêt pour les études archéologiques, ce qui a donné de nouvelles approches de la religion grecque. Les os d'animaux peuvent nous donner des informations concernant à la fois l'exécution pratique du sacrifice, la mentalité des gens présents ici, que leur relation avec le divin. D'autre part, même si les os d'animaux sont maintenant généralement publiés, exactement où dans le sanctuaire ils ont été trouvés n'est pas toujours noté, ce qui complique l'étude de contexte que je souhaite faire. L'os d'animaux sont encore considérés comme quelque chose d'essentiellement différent et moins pertinent que d'autres catégories de matériel archéologique, tels que la céramique, la pierre et le métal. Mais pourquoi les os sont-ils dans le sanctuaire? Certains os servaient clairement comme des monuments de rituels effectués, par exemple les crânes des animaux sacrificiels, les boucrania. Ils sont représentés sur le vase et devraient probablement être interprétés comme ils pendaient des arbres ou bien encore cloués d'un bâtiment. Le crâne conservé porte foi et des trous de clous dans le fond, comme vous voilà en bas à gauche, ce qui renforce cette interprétation. Les autels de pierre ont été décorés avec des reliefs montrant des boucrania. Ils sont aussi présents comme décoration sur des bâtiments. Des ossements comme cela ne peuvent pas avoir été considérés comme des déchets. Une catégorie d'os qui se connecte avec les boucrania sont les accumulations des cornes trouvées dans certains endroits, comme à Éphèse et à Dréros en Crète. Ceux-ci correspondent probablement aux autels de cornes d'animaux, bomoi keratinoi, que les auteurs anciens trouvaient si fascinants. Ici aussi, les ossements remplissent une fonction commémorative, semblable à d'autres monuments et installations dans un sanctuaire. Les os pourraient aussi avoir servi comme des votifs propres, à la même manière qu'une sculpture, un relief ou une figurine. Les os exotiques et rares étaient parfois donnés aux dieux. Une mâchoire de crocodile de Héraion de Samos provient d'un animal qui, vivant, faisait plus de 5 mètres de longueur. Nous pouvons nous imaginer un mercenaire de Samos qui acquit ce souvenir en servant en Égypte et qui fièrement l'a apporté dans son île natale pour offrir à la déesse. Ces dents, des dents, des cornes et des griffes d'animaux prestigieux, comme les lions et les ours, qui sont retrouvés dans le sanctuaire, étaient probablement attachés aux peaux d'animaux dédiés aux dieux, mais ils peuvent aussi avoir fait partie de bijoux ou des trophées. Ces os ne sont pas le résultat de sacrifices d'animaux, mais non plus ne pouvaient pas avoir été considérés comme des ordures. Mais revenons-nous aux ossements provenant d'animaux sacrificiels et ce qui reste après que la partie divine a été brûlée sur l'autel et la viande consommée par les gens présents. Ces os sont clairement des restes rituels qui ont été achevés et ont rempli leur objectif. Si nous commençons par les os brûlés provenant de l'autel, de tels restes ont été trouvés dans au moins 15 contextes archéologiques en Grèce, datant de la fin de l'âge de bronze jusqu'à l'hellénisme. C'est un chiffre qui ne cesse de croître. L'intérêt pour la compréhension de l'os brûlé est où dans le sanctuaire ils ont été trouvés et comment ils ont été traités. Les os de sacrifice de modèle Tusia sont faciles à reconnaître car ils sont constitués de certaines parties du corps et les fémurs, rotules, sacrés, vertèbres de la queue et le fait qu'ils sont durement brûlés, souvent calcinés, donnant une couleur très spécifique, blanche ou bleue, et aussi fragmentée. Ces caractéristiques permettent d'identifier ce matériau, même s'il ne se trouve pas à proximité d'un autel, et même quand aucun autel est préservé. Par exemple, dans la couche protogéométrique, entourant l'Artémision à Éphèse, on a trouvé une petite quantité de fémurs, de moutons et de chèvres très calciné. Ce matériau montre que pendant le Xe siècle avant Jésus-Christ, on a effectué ce type de sacrifice sur le site malgré l'absence d'autels de la même période. Le plus souvent, cependant, on trouve les os brûlés à proximité de l'autel, soit autour, soit dessus, ou bien à l'intérieur. Chaque sacrifice doit avoir donné une quantité des os de cendre et aussi de résidus de bois utilisés. Le sacrifice avant aurait pu avoir lieu sur des débris plus anciens, Mais si l'hôtel avait une surface plate, qui semble avoir été la norme pour la plupart des hôtels de pierre, finalement, cela devait avoir été difficile de réaliser un sacrifice sur le reste du dernier rituel. Il fallait donc enlever les os, mais il y avait une volonté de le garder près de l'endroit où on a sacrifié. Voyons quelques exemples. À Comos, en Crète, on a fouillé deux hôtels datant de la période archaïque et classique hellénistique, hôtel H et C, les deux avec des os animaux, à la fois sur et autour d'eux. Le dernier, hôtel C, était découvert d'une couche de terre brûlée qui contenait 3 kg de os d'animaux brûlés, principalement de fémurs, d'ovins caprins et des bovins. De grandes quantités de mêmes matériaux ont été retrouvées autour du même hôtel. Un autre exemple est un petit hôtel archaïque à Olympie, dédié à Artémis. Autour de cet hôtel, il y avait une épaisse couche de matériaux sacrificiels contenant des cendres, des os d'animaux, donc certains calcinés, une grande quantité de votifs. Et ça, c'est très typique. On ne trouve jamais des photos des ossements, seulement de la structure d'hôtel et les votifs, mais pas les ossements. C'est dommage. Le lien très étroit entre l'hôtel, les os et les cendres devient particulièrement évident dans ce qu'on appelle l'ère sacrificielle au nord à Érythrée, sur l'île de Hébé. Ce sanctuaire est situé au nord-est du temple d'Apollon et était probablement un petit lieu de culte au ciel ouvert dédié à Artémis. Au cours de la seconde moitié du 8e siècle, on a construit un hôtel circulaire en pierre rempli de terre. Ce n'était pas un hôtel creux, c'est l'image de photo. Après, on a fouillé ce qui se trouvait à l'intérieur de l'hôtel. L'hôtel a été couronné par une couche d'argile qui était remplacée régulièrement. Sur cet hôtel, les cuisses et rotules d'au moins 32 moutons ou chèvres ont été brûlées. À la fin de chaque rituel, on doit avoir balayé les os de l'hôtel vers le sol où ils se mélangeaient avec de la céramique et des figurines en terre cuite, des objets métalliques, d'autres offrandes votives qui servaient dans le rituel ou étaient déposées sur ou à côté de l'hôtel. Tout ce matériel a été aplati et piétiné et a fini par former le niveau de sol sur lequel les adorateurs se trouvent quand ils ont exécuté le rituel. Peu à peu, des os, des cendres et de la céramique ont été rajoutés, ce qui a résulté dans une élévation progressive du niveau de sol autour de l'autel. Finalement, le haut de l'autel était au même niveau que le sol de la structure, et la structure a été littéralement enterrée, ou plutôt noyée dans son propre matériau sacrificiel. La fouilleuse Sandrine Hubert a suggéré que cette situation particulière peut être comparée avec le simple hôtel de pierre figurant sur une petite coupe de vase antique. Elle propose que le bas niveau de ces hôtels n'est pas dû à leur conception, mais que ces images servent à montrer des hôtels qui ont été progressivement ensevelis par la matière sacrificielle. Des grandes quantités de os brûlés près d'un hôtel ne semblent pas ainsi avoir été perçues comme un problème à résoudre par un nettoyage après chaque sacrifice. On a laissé les restes directement sur ou côté de l'hôtel. Il s'agit de grandes quantités pendant une longue période. Les restes de sacrifice pouvaient aussi être incorporés dans l'environnement local. Le sanctuaire de Poséidon à Isthmie, les os brûlés ont été trouvés au long du grand hôtel construit au milieu du 7e siècle, mais aussi dans le terrasse à l'est qui élargit du centre de l'hôtel et dans le rempart du stade postérieur. Les os ont été mélangés avec de la céramique et des pierres de la construction du temple archaïque. La quantité de matière doit finalement avoir suffi à utiliser dans ce remodelage du paysage. Mais l'incorporation dans la terrasse signifie aussi que les os étaient gardés près de l'hôtel d'où ils provenaient. Dans le cas que je vous ai présenté, jusqu'à présent, il semble y avoir eu aucune volonté directe de réglementer l'extension de sauce quand il était encore près de l'hôtel. Parfois, cependant, les sauces ont été collectées et déposées dans les fosses près de l'hôtel, peut-être pour avoir plus de contrôle sur eux, parce qu'ils représentent deux rituels spéciaux. Deux de ces puits ont été retrouvés dans le sanctuaire de Hera à Forte del Sele. Tous les deux sont situés à côté d'un hôtel. Le matériau est fascinant, mais malheureusement assez mal publié. La fosse la mieux documentée mesurait 3,5 mètres de profondeur et se trouvait près de la base de notre petit hôtel à sud-ouest du temple. Au fond, on a trouvé une couche épaisse de 1,5 mètre d'eau d'animaux, d'os d'animaux et du charbon de bois mélangé avec des offrandes votives et la céramique datée du 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Sur ces vitres, on trouvait un gros bloc de calcaire qui servait éventuellement de sceller le dépôt. Ensuite, une couche de sable et d'argile qui était vidée de l'exception du reste d'un chien, qui indique que cette couche était un dépôt volontaire plutôt que le résultat de l'érosion. Dans la partie supérieure de la fosse, il y avait deux niveaux de l'époque impériale romaine, et où on trouvait plusieurs blocs calcaires, des lampes de monnaie de l'empereur Adrien, ainsi que des traces de feu. Une situation similaire est rencontrée dans la fosse plus grande, à côté de notre hôtel situé au nord-est du même sanctuaire. Dans les deux fosses, les os animaux, le charbon de bois, la céramique et les objets votifs semblent avoir été déposés à la fin du 3e au début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Le bref analyse des os dans le rapport de fouille montre une variation fascinante d'espèces. Chèvres, poulets, pigeons, coqs, chiens, chats, souris, reptiles et tortues. Mais il n'est malheureusement pas clair dans quelle mesure les os ont été brûlés. La variété des espèces suggère que ces os ne représentent pas uniquement un tusia du type grec. Nous sommes peut-être ici confrontés à une autre sorte de rituel, une purification ou un rituel avec des éléments de notre système religieux qui n'est pas purement grec. D'autre part, on voit ici un désir de préserver les os près de l'autel. Mais revenons à l'autel grec et les os brûlés. La plupart des hôtels anciens ne sont pas malheureusement pas conservés au-delà de la fondation, ce qui signifie que nous avons du mal à nous faire une idée de leur partie supérieure. S'ils n'étaient pas en pierre massif, ils pouvaient être construits de blocs taillés qui forment une coque et qui a ensuite été remplie de cailloux ou de terre. Cette construction était couronnée par une dalle en pierre. Dans certains cas, cependant, les hôtels sont creux au centre et là, on trouve aussi des os brûlés, souvent de grandes quantités. Il s'agit donc d'un dépôt volontaire à l'intérieur de l'hôtel. Le plus ancien hôtel à Komos, en Crète, hôtel U, daté environ en 700 avant Jésus-Christ, avait une dépression au centre qui, au moment de la fouille, était remplie avec 40 kilos d'os brûlés, principalement des fémurs et des vertèbres de cul bovin, ovin et caprin. L'hôtel avait été utilisé pendant un temps considérable, au cours duquel le niveau de sol croissait. Finalement, l'hôtel U est devenu une fosse plutôt d'un hôtel autonome. Les cendres et les os débordaient de son intérieur et la terre autour de lui était devenue noire et molle. Ce résidu du sacrifice doit avoir fait partie de la structure de l'autel, de la même manière que dans l'aire sacrificielle au nord à Érythrée que je soulevais plus tôt. Cette manière particulière de traiter les os que nous voyons à Komos semble à première vue avoir un parallèle dans l'autel de marbre de Daphrodite Urania à Athènes, construit vers 500 avant Jésus-Christ. Pendant les guerres médiques, cet hôtel semble avoir été sérieusement endommagé. Une rénovation a eu lieu autour de 430-420. On a placé une série de dalles de pierre à l'intérieur de la structure pour le rendre plus stable. Et l'intérieur de l'hôtel a ainsi été divisé en compartiments. Dans ce compartiment, les fouilleurs ont trouvé une cache de matériaux sacrificiels, cendres ainsi qu'une grande quantité d'os d'animaux. qui se composait presque exclusivement de cuisses de vertèbres de queue. Il semble que ces restes de la part de Dieu, brûlés au sommet de l'autel, sont tombés dans le bac à la fin du rituel où ils ont été déposés. Mais cette interprétation est compliquée par le fait qu'aussi des os non brûlés ont également été trouvés, un peu de mouton, de chèvre, de porc, mais aussi des restes de souris, d'oiseaux, de coquilles d'œufs, des poissons, des grenouilles, des coquillages fossiles et du suite astragalie. La présence de os non brûlés indique que le remplissage de l'autel n'a pu provenir seulement de sacrifices effectués sur place, mais d'objets apportés d'un autre emplacement. Une explication possible est que le matériel de l'intérieur à l'autel d'Aphrodite provient d'un dépôt de matériaux sacrificiels à ciel ouvert. Et lors de la collecte des os brûlés, on a accidentellement ramassé aussi les os non brûlés qui étaient déposés à proximité. Il est également possible que les os brûlés et non brûlés peuvent avoir été déposés ensemble sur le site d'origine. En tout cas, les os brûlés et non brûlés étaient probablement placés à l'intérieur de l'autel quand il a été restauré au cours du dernier quart du 5e siècle. Cela peut avoir été un acte avec un but précis pour reconsacrer à nouvel l'autel comme une installation religieuse après la rénovation. Nous pouvons interpréter ce matériau de remplissage d'os brûlés comme une sorte d'aphidruma, le matériel sacrificiel pris d'un autel qu'on a emporté en fondant des nouvelles colonies pour mettre en place des nouveaux cultes. En cette matière, résidait le sacré, et il pouvait donc être déplacé d'un endroit à l'autre. L'autel d'Aphrodite à Athènes a été endommagé et devenu impur par le ravage des Perses, mais le pot de sauce sacrificielle de notre sanctuaire a permis qu'il soit resanctifié. L'importance de l'os brûlé de sacrifice devient peut-être encore plus évidente quand il compose l'autel même. Ces autels de cendres, plutôt cendres d'os, doivent avoir été assez communs dans l'Antiquité, en jugé par les sources littéraires. L'exemple le plus célèbre, c'est l'autel de cendres à Zeus Olympie, qui, pendant les siècles, a formé par le fémur brûlé d'animaux sacrifiés aux Zeus et le cendre du foyer de la boule Thérion. Les os et les cendres ont été cimentés, ont été mélangés avec de l'eau de la rivière Alphée. Enfin, cet autel a pris des proportions impressionnantes, avec une hauteur plus de 6 mètres. Que ces autels de cendres pouvaient vraiment être si grands est montré par l'autel de Zeus qui se trouve sur la montagne Lucaïon en Arcadie, et où des nouvelles enquêtes ont été menées au cours de ces dernières années. C'est un exemple archéologique spectaculaire de la façon de traiter les résidus de sacrifice. L'énorme structure est d'environ 10 mètres de diamètre et 1,5 mètre en haut, et composée des os brûlés d'animaux, des cendres, de la terre noire, de céramique et de pierre. Les os sont presque exclusivement de fémurs et de rotules, de moutons et de chèvres, très calcinés, un dépôt de tuiles atypiques. L'autel a été utilisé à partir de la fin de l'âge du bronze et au moins jusqu'en 500 avant Jésus-Christ, mais peut-être même dans la période romaine. L'exemple que je voulais présenter montre que les os brûlés avaient été un élément central des sanctuaires grecs et n'étaient pas considérés comme des ordures qu'il a fait nettoyer. La préservation des os et des cendres dans un lieu particulier peut résulter dans un autel et une place de culte bien définie, même s'il n'y a pas de structure construite en pierre. Les os et les cendres suffisent. Le matériel archéologique plus important, matériel archéologique montre clairement que les os et les cendres des activités rituelles semblent avoir été beaucoup plus importants qu'on en avait pensé. Ce matériau a non seulement été lassé en place pour produire un autel de cendres, ou autorisés s'accumuler sur et autour existantes des autels de pierre, mais les os et les cendres des animaux pouvaient également être sauvegardés dans les endroits précis au sein du sanctuaire. À Kallapoudi, dans le sanctuaire dédié à Apollon ou Artemis, ou les deux, il y avait une enceinte de pierre, environ 3 par 8 mètres, qui date de la période archaïque. placée à l'est des deux temples du 7e siècle. La structure était recouverte de cendres mélangées avec les os, qui, après environ 100 ans d'utilisation, ont créé une colline d'une hauteur près de 1 mètre. Environ la moitié du dépôt était composée par des petits fragments d'os d'animaux très brûlés, mais ni le sol d'argile à l'intérieur de la structure ou l'enceinte de pierre ne montrent aucune trace de feu. Les os doivent être brûlés dans un autre endroit, puis transportés là où ils étaient trouvés. Où se trouve l'hôtel ou les hôtels de la face archaïque n'est pas encore connu. Les os brûlés étaient calcinés et fragmentés, qui caractérisent habituellement des résidus de sacrifice. Une différence est qu'il y avait aussi d'autres parties d'animaux, en particulier ceux qui sont riches en viande, comme des pattes de devant et derrière, les côtes et la colonne vertébrale. Les os indiquent que le matériau est aussi un résidu de repas qui était brûlé après qu'il a été consommé. Le nombre de fémurs et vertèbres de la queue était dans l'ensemble faible, ce qui suggère que ces pièces étaient retirées pour être brûlées comme la partie de Dieu sur un autel. Les liens à la fois au sacrifice et au repas sont renforcés par plus de 200 couteaux de fer qui ont été trouvés dans et autour de dépôts. Chacun peut correspondre à un sacrifice, indépendant d'où viennent ces cendres, les os, et s'ils sont de reste de sacrifice ou de repas ou les deux, ils ont été considérés comme du matériau si important s'il était déposé dans une énorme pile en face des temples. Nous avons l'impression que les résidus sacrés deviennent être manipulés correctement et avec respect. Cette impression du contexte archéologique est confirmée par la description de Pausanias de la fête d'Isis à Titoréa. Avant le début de la fête, ceux qui avaient la permission d'entrer dans le sanctuaire sont venus pour le nettoyer et d'éliminer et enterrer, toujours dans le même endroit, dit Pausanias, tout le reste des animaux sacrificiels, Tahiereia, restant du festival de l'année dernière. Cela doit presque certainement s'agir de cendres et des ossements d'animaux sacrificiels. Les restes sacrificiels semblent détenir une part de la puissance de Dieu. Les restes sacrificiels semblent détenir une part de la puissance de Dieu et pouvaient même être utilisés dans le rituel. Une inscription hellénistique de l'Asclépiélon à Lébéna en Crète décrit comment le Dieu lui-même a guéri un homme très malade en lui faisant manger les cendres de l'autel. Nous pouvons conclure que les os et les cendres brûlés représentent une catégorie de preuves d'actes rituels qui auparavant nous avons trop négligés. Une étude plus détaillée de ce matériau nous donnera encore plus de nuances sur la complexe réalité de la religion grecque. Que les os brûlés de la partie de l'animal sacrifié aux dieux étaient d'une grande importance et hors de doute. Et ces os n'ont pas souvent été nettoyés, mais laissés à l'endroit même où le sacrifice était accompli, au moins près de ce lieu, parce qu'il avait un but. Ils étaient les traces tangibles de la communication avec les dieux, de la même façon que les traces de sang que nous voyons représentées sur le vase attique. Mais quand étaient-ils des os qui restaient après qu'on ait consommé la viande? Que en faisait-on? Ces os sont normalement beaucoup plus en abondance que si on était brûlé sur l'autel, tout simplement parce qu'une des plus grandes parties de l'animal était allouée aux hommes qu'aux dieux quand l'animal sacrificiel était divisé. Le repas, si concluait un sacrifice, pouvait se faire partout dans un sanctuaire. Parfois, il y avait des salles à manger, mais on a aussi mangé dans des tentes temporaires ou à l'ombre des arbres. La viande de sacrifice pouvait également être consommée à la maison ou bien vendue. Et ensuite, les os finissaient sur le tas d'ordures dans la cour ou dans la rue. Nous ne pouvons évidemment pas savoir dans quelle mesure les os d'animaux ont été emportés des sanctuaires et jetés hors de ceux-ci, mais le fait demeure que des os non brûlés sont souvent trouvés dans le sanctuaire. Comment devons-nous interpréter ces résultats? Si nous regardons l'écotexte, les os sont souvent retrouvés dans des concentrations. Dans certains cas, les déchets de repas se situaient près de l'autel. Au cours de la première phase du sanctuaire de Poséidon à Isthmie, au début de l'âge de fer, on mangeait dans la partie où plus tard le long autel fut construit pendant la période archaïque. Ici, on a retrouvé des os non brûlés et déchiquetés, ainsi que la céramique géométrique incorporée dans la terrasse et du dernier autel. À Olympie, dans la partie sud-est du sanctuaire, des couches avec des os non brûlés ont été découvertes près d'un autel archaïque classique d'Artémis, où on a également retrouvé des résidus de sacrifices brûlés que je mentionnais plus tôt. Les os non brûlés proviennent principalement de moutons et de chèvres, mélangés avec de petites quantités de vaches et porcs. Toutes les parties riches en viande sont représentées, sauf les cuisses et les rotules, qui indiquent que ce sont les restes d'un repas dans le cadre d'un sacrifice. Dans la même zone, il y avait aussi un grand nombre de puits qui étaient utilisés au cours de la période archaïque et classique. Et dans ceux-ci, on a également retrouvé des os d'animaux et la céramique appropriée pour manger et boire. Cette partie semble avoir été une des zones principales de repas olympiques durant cette période. Dans notre cas, les restes de repas sont concentrés dans des zones de bâtiments particuliers. À Ténos, dans le sanctuaire de Poséidon et d'Amphitrite, les ossements de face les plus anciens, 4e et 3e siècle, viennent probablement d'un histiatorion, une salle à manger, ou bien de repas qui ont lieu dans la partie où ce bâtiment fut construit ultérieurement. Pendant le 2e siècle, on semble plutôt avoir mangé dans une longue stoa, le long duquel on a trouvé des os brûlés dans des couches de remplissage et sur la surface de la route. Nous pouvons imaginer que les os étaient balayés du stoa. Et les os ont également été retrouvés dans la cuisine du sanctuaire. Une situation similaire existe en l'Héracléion de Thasos, où le matériau sous-archéologique se trouve dans les environs du bâtiment le plus antérieur sur le site, de la fin du 6e siècle, qui a été interprété comme une salle à manger. Ou bien ce bâtiment avait été érigé sur ces résidus, ou bien la matière avait été déposée à l'extérieur. Parmi les os, il y a très peu de cuisses et pas du tout de rotules, indiquant que la viande devient provenant d'animaux sacrifiés, sans doute de l'hôtel proximité vers sud-ouest. Aussi bien le reste de nourriture à Ténos qu'à Thasos semble avoir été laissé sur le site où on mangeait la viande. Fait intéressant, les os provenant de repas se trouvent souvent mélangés avec d'autres trouvailles, non seulement la céramique utilisée pour cuisiner et manger, mais aussi des miniatures, des figurines de terre cuite et d'autres types d'offrandes. Dans le raïon de Samos, on a découvert les os dans la partie sud-est du sanctuaire, ensemble avec la céramique de repas, ainsi que des offrandes votives du 6e siècle. Pendant le 7e siècle, un long stoa qui faisait face au nord-est était érigé ici. Un certain nombre de puits utilisés dans le 7e et 6e siècle. Des installations idéales pour une zone où on mange bois. Un dépôt intéressant, composé de 3 broches de fer au béloï et un crâne de bœuf avec des cornes intactes, représente peut-être une commémoration d'un sacrifice et le repas qui en suit. Mais le dépôt le plus concentré de restes de nourriture et objets votifs sont également présents. À Mécène, dans le sanctuaire qui appartient à Déméter et les héros, on a trouvé une grande quantité d'os d'animaux non brûlés dans une fosse dans la fondation de roche sous le plancher de la face ultérieure du bâtiment, datant de la fin du 4e au début du 3e siècle. Ce matériau a été mélangé avec des quantités de plaques de terre cuite de l'époque archaïque et classique, des figurines votives et de la céramique. Il semble être le reste de repas déposé sur place, probablement avant qu'ils ont construit l'édifice qui succédait pendant l'époque classique tardive. Il semble qu'il n'y avait pas de besoin de présent d'effacer tous les traces de repas dans le sanctuaire. En même temps, il semble qu'on a voulu concentrer les ossements à certaines zones, peut-être pour éviter un abandon du détritus général causé par l'os, ainsi que nous avertit explicitement l'inscription des toulis. Mais parfois, le contexte suggère la volonté même de les préserver. Les os non brûlés dans la fosse du sanctuaire de Déméter et les héros à Mycène peuvent être interprétés de cette façon. Et il en va de même pour l'énorme tas de cendres d'ossements devant le temple archaïque à Kallapoudi. Dans le sanctuaire de Zeus Melicius en Selinus en Sicilie, une série de dépôts du 7e siècle et 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, constitués de os d'animaux, figurines, lampes et céramiques, étaient entourés de pierres et probablement désignées par le stélaï. Chaque dépôt pourrait être marqué un espace de cuisson pour une personne, une famille ou un groupe qui a visité le sanctuaire. Un cas vraiment intéressant de cette forme de commémoration et par le résidu aliment a été trouvé dans le sanctuaire de Poséidon à Calavreia sur l'île de Poros, fouillé par l'Institut suédois à Athènes. Ici, on a trouvé un grand dépôt de céramique, des os d'animaux et du charbon de bois qui a été interprété comme des restes d'une énorme fête pour au moins 200 personnes qui a eu lieu vers 165 avant Jésus-Christ. La viande provenant de bœuf, mouton, chèvre et porc a été préparée et consommée. Mais le plus remarquable est qu'ils mangeaient aussi au moins 18 sortes différentes de poissons. Ces poissons proviennent de différents habitats marins et doivent avoir été pêchés avec des techniques de pêche différentes. Le reste de ce repas sont spectaculaires, mais aussi cette sélection extraordinaire de poissons sont de fait saillants, non seulement des compétences de pêcheurs, mais aussi étaient considérées comme une digne hommage au dieu de la mer et ses richesses. Les matériaux ont été déposés dans un enclos triangulaire près de l'entrée du sanctuaire et doivent avoir servi comme un rappel constant de la bienveillance de Poséidon et la fête qu'on a eue à son honneur. L'examen de la façon dont on a traité les os d'animaux dans le sanctuaire grec, brûlés ou non brûlés, montre que ce matériau ne peut pas être classé comme des ordures aux déchets dans notre sens moderne. Une telle interprétation est trop simpliste, ignorant aussi que les ossements proviennent de sacrifices d'animaux. Le fait que les os étaient délibérément lassés dans le sanctuaire comme une mémoire de rituel effectué mène à la question dans quelle mesure on réellement nettoyait les sanctuaires. Avec la question qui suit, comment définissons-nous le nettoyage? Le rituel de purification, katarmoi, a été entrepris à intervalles réguliers et était d'une importance fondamentale. Cependant, une purification ne signifie pas nécessairement un nettoyage ou un ménage avec un sens plus concret. D'autre part, certains sanctuaires donnent vraiment l'impression d'avoir été soigneusement nettoyés. Dans le salle à manger du sanctuaire de Déméter et Coré à Corinthe, on a trouvé très peu d'os, ce qui, initialement, a conduit à la conclusion qu'on ne mangeait à peine de la viande ici. Mais les fouilles récentes ont montré des petits fragments d'ossements de porc et d'autres restes d'animaux, ce qui montre plutôt que ces pièces ont été nettoyées après la fin du repas et les grands os d'autres rubis enlevés et placés dans un endroit approprié, mais eposteven ento hiero. De toute évidence, le reste de sacrifices d'autres rituels devait être abordé et pris en charge de manière appropriée pour que l'endroit conserve son caractère sacré. Nous devons donc nous demander ce qui peut être considéré comme indésirable dans un contexte sacrificiel. Le matériel épigraphique nous donne quelques idées qui pourraient clarifier la situation. Sur l'acropole Athènes, la gestion du contenu des intestins et d'estomac des animaux sacrificiels est surveillée par des règlements spéciaux. Ontos, c'est-à-dire le contenu intestinaux et de l'estomac, ou kopros, Le fumier ne pouvait pas être déchargé ou déversé à côté de l'hécatompédon. Il n'était non plus permis de nettoyer ses organes dans cet endroit. De même, il n'était pas permis de jeter le sang, spoudos, où l'on voulait. L'acropole d'Athènes est une zone restreinte, un thémenos, ce dont je parlerai la semaine prochaine, et probablement, on ne voulait pas que ceux qui avaient participé dans le culte vident ce matériel n'importe où, ou peut-être même par-dessus de la bord de la falaise. Ce type de contrôle est donc tout à fait compréhensible. Un règlement de Délos à la fin du IIIe siècle dit clairement que personne ne peut jeter du fumier, des cendres ou d'autres choses dans les zones récemment nettoyées appartenant à Dionysos et Leto. Les hommes libres qui le font seront condamnés à une amende et les esclaves fouettés. Le spoudos, les cendres mentionnées dans cette inscription, est probablement venu des autels ou même dans l'acropole d'Athènes, parce que la même inscription interdit aussi de faire un feu pour cuisiner à cet endroit. L'inscription de Délos pourrait être appliquée aux autels, mais aussi bien au feu pour la cuisine. Si le sang venait des autels, la manipulation de ces matériaux est non seulement une question d'hygiène et de tenir propre le sanctuaire, mais il s'agit aussi du respect et de l'importance de ce matériau. C'est justement cette perception de reste du sacrifice qui a conduit à ce que les autels de sang se créent. Nous pouvons également nous rappeler l'inscription crétoise décrivant comment la consommation de cendres sacrées faisait partie du rituel. La cendre et des ossements doivent apparemment être traités de manière correcte, puisqu'ils étaient encore la propriété du dieu. Comme on ne pouvait pas traiter ou disposer des offrandes votives données au dieu n'importe comment, même s'ils étaient cassés ou obsolètes. Un exemple clair peut être trouvé dans les inventaires de Délos, qui année après année énumère les offrandes de plus en plus cassées, mais toujours conservées. Les fosses que l'on retrouve souvent dans le sanctuaire, souvent appelées botroi ou favisai par les chercheurs modernes, et dans lesquelles on a enfoui des objets votifs, démontraient clairement la perception que ce qui a été une fois donné au dieu restait la propriété du dieu, même endommagé, usé ou pas à jour. Le fait que les restes de repas, des ossements, sont souvent trouvés avec la céramique et des offrandes endommagées, par exemple à Mycène, Érythrée, Samos, Isthmie et Calavraïa, suggère que même les os des animaux sacrificiels peuvent être inclus dans cette catégorie. En conclusion, les os d'animaux, dans le contexte religieux grec, est clairement un domaine de recherche avec un avenir brillant. Nous avons besoin d'en savoir plus, avoir de contextes de plus en plus publiés, mais nous avons aussi besoin de repenser la façon dont nous définissons ce qui est lié à des rituels ou non dans un sanctuaire. Quand nous étudions tous les différents types d'objets, d'activités que nous y rencontrons. Les autels qui se noient dans leurs propres résidus de sacrifice et le témenné avec des dépôts d'ossements laissés après le repas en guise de commémoration ne correspondent guère avec notre idée de l'Antiquité comme propre et blanche. La question reste à quel point il y avait ce qui soit qui pourrait être décrit comme des ordures, sacrées ou non, dans le sanctuaire grec. Et si quelque chose peut ou doit être nommé déchet s'il appartient à un dieu. Merci.